Ici la Voix de la librairie Québec. Mon nom est Catherine Doré. Je souhaite la bienvenue aux auditeurs de Radio Fiat Lux ainsi qu'aux auditeurs de CKIA qui nous écoutent le mardi après-midi en différé. La Voix de la librairie est enregistrée le premier lundi du mois à la librairie Saint-Jean-Baptiste située au 565 rue Saint-Jean à Québec. D'ailleurs, David, notre hôte et notre libraire préféré, se mêlent parfois à la conversation, comme vous le savez. Cette semaine, une émission éclectique, mais dont tous les sujets vous feront voyager dans le passé. Il sera d'abord question des grands humanistes de la Renaissance avec Adrien. Ensuite, nous nous attarderons sur le pendule de Foucault avec Simon. En fin d'émission, nous parlerons du jeu Donjons et Dragons, dont c'est le 40e anniversaire cette année, en compagnie de Martin et Guy. Et comme à l'habitude, on débute par une pause musicale qui va vous mettre dans l'ambiance de notre premier sujet. Nous allons écouter une pièce du compositeur italien du 16e siècle, Giovanni Gabrielli. Il s'agit d'une cantate tirée de la série Canzoni per suonare. Cette pièce nous permet donc d'aborder la question de l'humanisme. Est-ce qu'on sait encore vraiment ce que c'est? Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à peu près tous les courants de pensée s'en recommandaient. Sartre démontrait que l'existentialisme est un humanisme. Les marxistes utilisaient ce vocable pour se définir. Le mot a parfois été utilisé pour désigner une morale athée. On a même entendu dire que le nazisme était une forme d'humanisme, ce qui, entre vous et moi, est assez déstabilisant. Aujourd'hui, on parle de transhumanisme comme plateforme pour refonder un humanisme à partir d'une nouvelle définition de l'homme qui intégrerait les dernières connaissances en neurocognition ainsi que les découvertes en biotechnologie. Alors, en fait, finalement, on ne sait peut-être même plus tout à fait ce qu'est l'homme. Alors, afin de voir un peu plus clair dans tout ça, on a pensé ce soir revenir à la source de la pensée humaniste avec les grands humanistes de la Renaissance en compagnie d'Adrien. Bonsoir, Adrien.
Bonsoir, Carnelle.
D'abord, pouvez-vous, Adrien, nous rappeler les événements qui ont mené à cette période historique que l'on appelle la Renaissance?
En fait, je voudrais d'abord situer la Renaissance dans l'histoire de l'Occident. Mm-hmm. Comme on le sait, c'est la période qui est venue immédiatement après le Moyen Âge.
Oui.
Et l'historiographie traditionnelle a retenu trois événements charnières qui ont marqué la fin du Moyen Âge et le début donc de la Renaissance, mm-hmm. soit la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, la prise de Constantinople par les Turcs et l'invention de l'imprimerie par Gutenberg.
Oui, qui a certainement joué un rôle très important.
Le mouvement de la Renaissance est donc né en Italie au 15e siècle. L'Italie était alors le berceau de l'art et de la civilisation européenne.
Oui.
Et le mouvement, donc, a parti de l'Italie pour se répandre en Europe occidentale et pour se terminer, grosso modo, à la fin du 16e siècle, de sorte que la période a eu une durée d'environ 200 ans.
Et quand on parle de l'Europe occidentale, on parle de l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Angleterre.
L'Angleterre, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse.
Okay.
Un peu l'Espagne aussi et le Portugal, mais sans aller là, du côté de la Pologne, du côté de la Bulgarie et de la Tchécoslovaquie.
Okay. Et c'est une période qui a duré, vous dites, à peu près 200 ans.
Environ 200 ans.
Et quelle forme l'humanisme a pris durant la Renaissance, durant ces 200 ans-là?
En fait, l'humanisme était un petit peu le fer de lance de la Renaissance. Il n'était pas à l'époque une doctrine philosophique, ce qu'il est devenu par la suite.
Oui, ah, c'est ça.
Il ne consistait pas dans une démarche purement intellectuelle.
Okay.
Les humanistes comme Nicolas de Cuse ou Pic de la Mirandole n'étaient pas eux-mêmes des professeurs d'université.
Ah bon?
Essentiellement, l'humanisme s'attacha à faire renaître, d'où le mot Renaissance, à faire renaître les valeurs de l'Antiquité dans la civilisation européenne. C'était le sens qu'avait ce mot à l'époque.
Okay.
Rappelons que des auteurs anciens comme Cicéron et Quintilien entendait par humanitas ou humanisme la culture spirituelle, la politesse civique et plus généralement la civilisation.
Okay.
Et ce sens-là a été récupéré par les hommes de la Renaissance.
D'accord.
De sorte que le raffinement des mœurs et la culture comme facteur de civilisation ont défini l'humanisme de l'époque.
D'accord. Donc ce sont les valeurs, ce sont l'attachement. Peux-vous rappeler les valeurs antiques?
Oui, en fait, il s'agissait de la culture spirituelle, ou ce qu'on appelle, nous, la culture intellectuelle.
D'accord.
La politesse civique, ou la politesse des mœurs.
Okay.
Et, d'une façon générale, ce qu'on appelle la civilisation.
Donc ça, c'était les valeurs qui étaient portées à la Renaissance par ceux qu'on a appelés les humanistes.
Oui, c'est des valeurs qu'on a réactualisées. D'où l'idée de Renaissance de ces valeurs qui existaient chez les anciens. Maintenant, l'étude des langues anciennes, parce qu'on est revenu aux anciens et notamment aux textes anciens, l'étude du grec, du latin, de l'hébreu, la diffusion des textes littéraires et philosophiques de la Grèce comme de la Rome ancienne, l'intérêt pour la philologie et les travaux d'érudition,
mm-hmm.
tout ça était considéré comme important d'un point de vue civique, pas uniquement d'un point de vue intellectuel.
Okay.
Que ce soit pour l'administration des villes, la rédaction des contrats, la diplomatie et les affaires de chancellerie. Alors, les connaissances qui se rattachaient à ces sujets-là servaient aussi dans le domaine de la gestion des cités.
D'accord. On considérait que la connaissance de ces textes-là antiques permettait de mieux juger des affaires de la cité.
Oui, et souvent, les humanistes étaient des gens instruits, des gens qui jouaient un rôle soit auprès des princes, soit auprès des autorités de l'Église, mm-hmm. qui pouvaient être soit légat du pape, cardinal ou autre. Et évidemment, l'instruction et le savoir qu'ils avaient a contribué beaucoup à les mettre, à répandre l'humanisme et à répandre aussi la doctrine de ces gens-là. Mm-hmm. C'était donc des intellectuels engagés dans la société. Ce n'étaient pas uniquement des hommes de cabinet, comme on sera enclin à le penser.
Oui, comme sont devenus les intellectuels plus tard.
Oui, tout à fait. Maintenant, d'une façon générale, les humanistes ont adopté aussi une position critique à l'endroit des valeurs médiévales, parce que la Renaissance, c'est aussi une critique du Moyen Âge.
OK.
Et ils ont mis l'accent sur l'éducation et la recherche intellectuelle en dehors des institutions. Les institutions, ça signifie l'Église et les universités qui étaient en décadence, il faut dire,
oui.
Et qui ont été remplacées par des académies. La Renaissance fut en quelque sorte donc une période d'émancipation des individus face à la tradition scolastique des universités et de l'Église. Elle s'est traduite par une certaine laïcisation des esprits et l'émergence d'un homme nouveau qui était un homme de goût, un homme non seulement de savoir, mais un homme bien éduqué. Un homme qui avait une politesse et qui avait du raffinement.
D'accord. Et quand on parle de tradition scolastique, de quoi on parle?
En fait, on parle d'une tradition qui était la façon d'enseigner au Moyen Âge. Et tout ça était devenu assez décadent. Okay. Et les gens de la Renaissance ont beaucoup critiqué ça. Par exemple, la plupart des humanistes ont rompu avec Aristote pour se tourner plutôt vers le platonisme.
D'accord.
Et réactualiser la pensée de Platon.
OK. Et quels étaient les principaux humanistes à l'époque?
Bon, il y avait à l'époque des humanismes dans différents pays. Ils étaient assez nombreux. Il y en existait en France, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse également, en Italie. Mm-hmm. Mentionnons rapidement quelques-uns d'entre eux. Marcel Ficin, qui est une figure importante de l'humanisme, l'humanisme italien. Pic de la Mirandole. Lefebvre d'Étaples, qui lui était français, Érasme, Guillaume Budé, français également, mm-hmm. Thomas More, Nicolas de Cuse, qui était allemand, et Lorenzo Valla. Valla est un peu un des précurseurs de l'humanisme et un précurseur d'Érasme. Et Érasme a assumé beaucoup son influence.
C'est un Italien aussi, hein, parce qu'on disait au début que ça venait de l'Italie, le mouvement
de
Renaissance.
Oui, et d'ailleurs, les humanistes, même ceux qui n'étaient pas italiens, ont été attirés par Marcel Ficin, par son cénacle, et allaient souvent en Italie rencontrer les humanistes italiens, quoi. Et on va revenir un petit peu plus en détail tout à l'heure sur certains d'entre eux.
Oui, qui sont intéressants. Ce serait intéressant d'en savoir un peu plus. On y reviendra. En quoi consistait l'éducation et la formation humaniste à ce moment-là?
En fait, pour en donner un aperçu, j'ai pensé vous présenter un passage célèbre tiré du Pantagruel de Rabelais. Rabelais, qui était une autre figure importante de l'humanisme. Et dans l'extrait que nous allons lire, nous voyons Gargantua, qui est le père de Pantagruel, tracer à son fils le programme d'une éducation humaniste. Et là, je cite. Alors, il lui dit dans une lettre, « Mon fils, j'entends et veux que tu apprennes les langues parfaitement. Premièrement, la grecque, comme le veut Quintilien. Secondement, la latine. Et puis l'hébraïque pour les saintes lettres, que tu formes ton style à l'imitation de Platon et de Cicéron. » Gargantua recommande aussi à son fils l'étude des arts libéraux, la géométrie et la musique, de même que l'astronomie. Il l'engage aussi à se familiariser avec le Talmud, la Kabbale hébraïque et la langue arabe. Alors on voit donc, Catherine, que la réactualisation des connaissances passées et l'universalité du savoir sont présentées comme la marque de l'honnête homme, au sens où l'entendaient les auteurs du temps.
C'est une grande ouverture intellectuelle quand on parle d'apprendre les langues hébraïques et arabes. Là, c'est vraiment une ouverture qui n'existait pas du tout avant.
Ouverture qui n'existait pas au Moyen Âge.
C'est ça.
Par exemple, si on prend Thomas d'Aquin, qui lui-même a commenté Aristote, eh bien, il ne lisait pas le grec.
Oui.
Et il connaissait Aristote par des traductions latines. Alors que ces auteurs-là connaissaient le grec, connaissaient le latin, ils connaissaient l'hébreu et même le chaldéique et s'intéressaient donc à beaucoup de choses qui présentaient peu d'intérêt pour les penseurs du Moyen Âge.
Oui. Donc, dans la formation humaniste, il y a ce souci d'apprendre toutes les grandes langues de l'écrit pour pouvoir, j'imagine, avoir accès au texte.
Oui, et c'est ce qu'ont fait plusieurs de ces penseurs-là, dont Pic de la Mirandole, dont on va parler tout à l'heure.
Oui. Quand on parle d'humaniste, on parle fréquemment de, c'est souvent le nom qui nous revient davantage, c'est Érasme. Est-ce que vraiment il a été la figure dominante de l'humanisme?
En fait, Érasme a été considéré comme le prince des humanistes et, disons, le chef de la République des lettres. Érasme était né à Rotterdam vers 1469. On n'a pas la date précise de sa naissance, mais on estime vers 1469. Il a été ordonné prêtre et est devenu secrétaire de l'évêque de Cambrai. Puis il s'est mis à parcourir l'Europe, séjournant en Angleterre, en Suisse, en Italie, en Allemagne et dans les Pays-Bas. Mm-hmm. Il se considérait comme citoyen du monde aussi. Il ne se fixa nulle part de façon définitive. Et okay. Ça, c'est assez moderne comme façon d'envisager la réalité.
Oui, on a eu l'impression que c'est dans les années 80 qu'on a commencé à parler de citoyen du monde. Et je parle de 1980, évidemment. Alors là, qu'on est en 1480, quelque chose comme.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et Érasme a publié différents ouvrages, dont une édition critique du Nouveau Testament, une édition qui se situe un petit peu dans la suite des travaux de Valo, qui lui avait commencé ce genre de travaux avant lui. Érasme a contribué également à transmettre à ses contemporains l'héritage spirituel de l'Antiquité, qu'il tenta de concilier avec le christianisme. Et là, il faut dire aussi que il y a eu comme un effort de synthèse entre le christianisme et la pensée de Platon qui a caractérisé la Renaissance.
Ouais.
Et ça, on voit ça de Lorenzo Valla, qui avait aussi cette préoccupation-là jusqu'à Montaigne, à la rigueur.
Est-ce que c'est ce qu'on a appelé le néoplatonisme, à ce moment-là?
Oui, c'est le néoplatonisme qu'on a essayé de concilier avec les valeurs chrétiennes, d'en faire la synthèse. On voit ça également chez Pic de Mirandole.
Oui.
Et pour revenir à Érasme, bien... Donc, il se réclamait de la sagesse antique. Il estimait que le refus du fanatisme qui existait, qui est beaucoup à l'époque, hein, qu'on pense à, notamment à Luther ou même du côté catholique, là, le refus du fanatisme et la fidélité à l'Évangile sont pour lui les meilleurs garants d'une éducation réussie. Il s'est opposé aux idées de Luther et refusa d'adhérer à la réforme. Et jugea également avec beaucoup de sévérité les politiques des princes de son temps.
Vous parlez de la réforme, on va probablement y revenir tout à l'heure parce que c'est un autre mouvement d'idées qu'il y avait à l'époque qui est quelque chose de bien différent de l'humanisme.
Oui, oui.
On y reviendra tout à l'heure. Pourquoi Érasme est considéré davantage que les autres humanistes?
À cause de l'influence qu'il a eue. Il a voyagé, il correspondait avec à peu près tout le monde. Il a une correspondance importante et il a eu une grande influence sur la pensée de son temps. Et il est considéré comme étant la figure emblématique de l'époque.
De l'humanisme, la Renaissance. Est-ce que les humanistes étaient des hommes d'Église?
En fait, étant donné que l'Église a été, en quelque sorte, la matrice de l'Occident, bien, il ne faut pas se surprendre que la plupart des humanistes ont été de confession chrétienne et même des clercs de l'Église. La plupart des humanistes qu'on a mentionnés tout à l'heure étaient soit prêtres ou des gens d'Église. Ils n'ont pas nécessairement formé une chapelle, bien qu'ils étaient en contact et en relation, ils ne formaient pas un parti. Chacun agissait dans le domaine d'activité qui lui était propre. Je donne quelques exemples. Si nous prenons l'exemple de Marcel Ficin, qui est un humaniste italien, un des principaux également, alors du 15e siècle, né en Italie, fils de médecin et prêtre lui-même. C'était un helléniste de formation. Il était un peu l'âme du cercle platonicien de Carigi, au temps de Laurent le Magnifique, Laurent de Médicis, traducteur des Énades, de Plotin, des œuvres de Porphyre, de Proclus, de Denis l'Aréopagite. Et lui aussi entendait concilier l'Évangile avec la sagesse de Platon, ce qui est une caractéristique de plusieurs humanistes.
Oui, tout à fait.
Son intérêt également pour les sciences ésotériques, ça va revenir aussi, qui le rapprochait de Pic de la Mirandole. Et... Il fut donc considéré avec Érasme comme un des maîtres à penser de la Renaissance.
Oui. Et les humanistes, en général, critiquaient l'Église.
En fait, certains le critiquaient parce qu'Érasme a aussi critiqué les institutions ecclésiastiques de son temps.
Oui.
Sans suivre nécessairement Luther dans la Réforme.
Non, c'est ça.
Et c'était le cas également de Pic de la Mirandole, dont je voudrais dire un mot aussi.
Oui, j'aimerais bien qu'on en parle. Bon. C'est un personnage intéressant, ça.
Alors, Pic de la Mirandole est un personnage assez fascinant qui a vécu une trentaine d'années et qui était considéré comme peut-être l'homme le plus instruit de son temps. bien qu'il soit mort à 31 ans. Il est mort empoisonné et on pense que c'est un serviteur qui l'aurait empoisonné parce qu'il avait des ennemis. Et cette question-là n'a pas été élucidée, mais il a été empoisonné à l'âge de 31 ans. Alors, donc, il est né en 1463, quelques années avant Érasme, et considéré donc comme un des hommes les plus instruits. Il a appris très tôt le grec, l'hébreu, l'arabe les langues chaldéiques également. Il s'est initié à la tradition ésotérique juive et s'est intéressé aux doctrines hermétiques, comme Ficin d'ailleurs. Et affirmant que la Kabbale faisait partie de la révélation, il fut déclaré hérétique. D'ailleurs, il s'était opposé aussi à certains points de la doctrine chrétienne. Et sous l'influence de Savonarole, il est revenu par la suite à une vie de renoncement et d'ascétisme dans la dernière partie de sa vie.
Mais quand on regarde tout ce qu'il a appris par lui-même et écrit, on a l'impression, si jeune, on a l'impression que c'est un génie, en fait. On pourrait dire que c'est un génie.
C'est un vrai génie. Il était très doué. Et il apprenait facilement les langues et la philosophie et le reste aussi. Il avait des connaissances et des lumières dans tout.
Oui.
Ce qui était l'idée de l'honnête homme, c'est-à-dire avoir des lumières sur toutes les questions.
Sur toutes les questions. Qui a longtemps été un idéal en Occident, qui aujourd'hui est devenu un défi, une impossibilité.
Oui, c'est un peu une impossibilité. Un des derniers à avoir eu des lumières sur à peu près tout, c'était, je pense, Hegel, qui a fait un peu la synthèse des connaissances de son temps. Après ça, il y a trop de connaissances, là.
Oui, c'est ça, c'est pas possible. Mais pour en revenir à Pic de la Mirandole, j'ai quelques anecdotes. On dit qu'à 14 ans, il était un canoniste réputé.
C'est assez étonnant, hein? Et oui, et dès son jeune âge, il était déjà très avancé dans les études et la connaissance intellectuelle.
On dit qu'il pouvait acquérir la maîtrise de quantité de connaissances en quelques semaines, sinon même en quelques jours.
Ah oui, c'est
vraiment très, très étonnant.
C'est vraiment un génie, là, incroyable. J'aimerais peut-être dire aussi un petit mot concernant un autre humaniste qui est Nicolas de Cuse.
Oui.
Qui était, lui, né en Allemagne, à Trèves, dans le diocèse de Trèves, et qui a séjourné en Italie durant plusieurs années. Nicolas de Cuse a été nommé cardinal et a agi comme légat du pape dans plusieurs missions. C'est un docteur en droit. Il le prépare au concile de Bâle et il a négocié le Concordat de Vienne. Il a travaillé aussi à la réunion des églises grecques et latines. Mais c'était un philosophe et un savant. Et il a exposé ses idées dans un livre appelé « La docte ignorance » était considéré à l'époque comme un des maîtres livres de la Renaissance. Et on parlait tout à l'heure de concordat. Un concordat, c'est un traité entre l'Église et un État qui relève du droit international.
D'accord. D'accord. Il nous reste environ 2 minutes. Il y a une question dont il faut absolument qu'on parle. Vous avez fait allusion quelquefois à Luther et aux idées luthériennes et à dire que les humanistes ne faisaient pas partie de ces idées-là. Il faudrait nous préciser de quoi il est question quand on parle de Luther et en quoi ce mouvement-là diffère des humanistes.
En fait, Luther, aussi bien que Calvin, ne peuvent pas être appelés des humanistes au sens strict, bien qu'ils aient été influencés eux-mêmes par le mouvement de la Renaissance. Luther, on le sait, était un moine. Il faisait partie des ermites de Saint-Augustin au couvent d'Erfurt en Allemagne. Il fut l'initiateur et le père de la réforme protestante. Et contrairement à Calvin, ce n'était pas un homme d'études et un écrivain. Les travaux d'érudition ne l'intéressaient pas, contrairement aux humanistes. Par contre, il a en commun avec les humanistes de son temps le souci de revenir à l'Antiquité. Mais pour lui, il ne s'agissait pas tant de faire retour à la culture païenne, qu'elle soit grecque ou latine, mais plutôt de s'inspirer des écrits des pères de l'Église pour la réformer.
Oui.
Sa traduction de la Bible en langue allemande démontre d'ailleurs qu'il a été un homme de son temps. Cependant, son traité contre le libre arbitre, parce que c'est un traité contre celui qu'avait publié Érasme,
d'accord.
Son traité contre le libre arbitre a marqué une rupture avec l'esprit de l'humanisme.
Okay.
Un dernier mot concernant Calvin, bien, il était, lui, considéré comme le deuxième patriarche de la Réforme. Et il a reçu une formation helléniste et publié un commentaire du De Clementia de Sénèque. Mais s'étant converti à la Réforme, il modifia sa carrière, quitta la France pour la Suisse, et contribua à faire de Genève une république théocratique, ce qui n'est pas du tout dans la ligne de l'humanisme.
Merci beaucoup, Adrien. C'est tout le temps qu'on a. On a réussi à faire le tour. Je vous remercie.
Merci, Catherine.
Il y a David qui vient de se joindre à nous. Je pense qu'il y a une petite lecture pour nous.
Oui, bonsoir. En fait, j'ai 2-3 petites citations d'Érasme et de Thomas More. On va commencer par une petite de Thomas More. qui dit qu'il est certain, en fait, que la plus brillante parure pour couvrir la plus dégoûtante difformité. Il n'y a pas d'image qui nous vient en tête, mais quand même. C'est tiré de l'utopie, donc.
Ah, et c'était l'utopie de Thomas More. Ouais, on n'en a pas parlé de Thomas More, Adrien. C'est vrai, c'en était un important.
On voulait en dire quelques mots, mais le temps nous a pressé.
On n'a pas eu le temps. Oui, David.
OK, alors deux petites d'Erasme maintenant. Celui qui connaît l'art de vivre avec soi-même ignore l'ennui. Ça, c'est assez connu. C'est tiré de l'éloge de la folie. Et on ne naît pas homme, on le devient.
Ah, hein? Ça c'est pique à quelque chose. Ça, c'est pique de la Mirandole.
Non, c'est Erasme.
Mais... C'est Erasme?
Oui.
Ah oui?
C'est Erasme.
Oui,
c'est Erasme, il dit ça.
OK.
Puis juste un mini clin d'œil, parce que vous parliez d'honnête homme, quand Rosencrantz demandait à... Plutôt quand Hamlet demandait à Rosencrantz, alors quelle nouvelle? Aucune, sinon que le monde est devenu honnête. Et Hamlet de répondre, alors la fin du monde est proche.
Voilà. Certainement. Merci David, merci encore Adrien. On va faire une petite pause pour permettre à Sekia de passer ses publicités, ses indicatifs, et on va revenir ensuite avec une belle surprise. Alors, on vous avait promis une surprise au retour. Nous avons une musicienne en studio, une accordéoniste qu'on va écouter tout de suite, Laurence Petitpas. Laurence, est-ce que tu peux t'approcher du micro pour répondre à quelques questions? Quel était le titre de la pièce?
C'est une pièce qui s'appelle Delicado, délicat en portugais.
Et c'est donc une pièce portugaise?
Brésilienne.
Brésilienne.
Oui, une pièce brésilienne d'un compositeur qui s'appelle Valdir Azevedo, qui était populaire dans les années 50.
Quel bel instrument que l'accordéon, c'est un instrument complet.
Oui, un instrument orchestre, c'est vrai.
Qu'est-ce qui vous a amené à l'accordéon?
Le voyage.
Ah
moi,
oui?
J'ai appris le piano quand j'étais jeune, puis ça se traîne mal.
Piano sur, dans le métro, comme on dit, c'est pas...
Oui, c'est ça.
On m'a dit que vous allez être en spectacle prochainement à la librairie?
Oui, absolument. Avec un grand plaisir. On est une formation assez récente. On s'appelle Araponga. Donc, formation de musique brésilienne, principalement Chorinho, qui serait la première musique typiquement brésilienne. métissée de musique d'Europe, mais la première musique urbaine populaire vraiment née au Brésil vers la fin du 19e siècle.
Ah, ça va être formidable. Et c'est ce lundi?
Lundi prochain, oui, dans
le
10 semaine.
Février, à la librairie Saint-Jean-Baptiste, au 565 rue Saint-Jean. On espère que vous allez tous être là. Merci beaucoup, Laurence.
Bien,
c'était Laurence Petitpas.
On
va faire une courte pause pour avant d'accueillir notre prochain invité. Simon, on va parler du Pendule de Foucault, qui est un roman de Umberto Eco, un roman qui raconte l'histoire d'un grand complot mondial qui met en scène les chevaliers de l'ordre des Templiers. Alors, pour se mettre un petit peu dans l'atmosphère, on va écouter un extrait d'une pièce de Bach, l'hymne des chevaliers du Temple. Alors, c'est une pièce de Bach, Les Chevaliers de l'Ordre des Templiers. Bonsoir, Simon.
Bonsoir, Catherine.
Quand on écoute cette pièce-là, on a l'impression que Bach a une très bonne opinion des Templiers. Je ne sais pas si c'est le cas d'Umberto Eco.
Je pense que oui. En fait, probablement qu'Eco est un fan des Templiers, en quelque sorte. On ne peut pas écrire autant sur eux et pas les aimer.
Ouais. Et tu viens nous parler ce soir donc d'un roman d'Umberto Eco qui s'appelle Le Pendule de Foucault. Pourquoi tu viens nous parler de ça?
Bien, au départ, en fait, j'étais supposé parler d'un scientifique qui a écrit une œuvre littéraire, Heisenberg, qui a écrit une espèce d'autobiographie super intéressante, en fait, mais je ne trouvais plus le roman chez nous. Fait qu'il y a quelques semaines de délai, je fais « bon, ben, je vais prendre un roman que je connais à peu près par cœur, que j'aime beaucoup, mais qui, à l'inverse, lui, a été influencé par la science. » En fait, une grande influence du roman est l'expérience du pendule de Foucault, qui est une expérience de Léon Foucault, qui montrait en fait que la Terre tournait.
Okay.
Et puis, c'est aussi la clé, la clé de voûte du roman. C'est ce qui donne un peu la finalité du scénario, qui est un peu excessif, en fait, sur les à peu près 900 pages du roman. Et puis, c'est le début et la fin du roman sont reliés au pendule de Foucault.
Et c'est quoi exactement l'expérience du pendule de Foucault? Je fais une parenthèse rapide, là.
Oui, c'est un pendule qu'on comprend suffisamment long. Donc, la tige est suffisamment longue pour que une fois que le pendule se met à osciller, en fait, la rotation de la Terre va faire que le plan d'oscillation, donc la ligne que le pendule trace, va en fait tourner lentement avec le temps en suivant la Terre.
OK. Et maintenant, dans l'univers de Umberto Eco, quel est le lien entre le pendule de Foucault et les Templiers?
Ben en fait, c'est ça. Là, c'est okay, là, rentrons dans le roman.
Oui, rentrons dans le roman.
Tout ça, en fait, suit on a le narrateur, en fait, qui s'appelle Casaubon. J'imagine que je ne dis pas l'italien, ça doit être Casaubon. Je ne sais pas.
Ne parle pas italien, je ne peux pas vraiment me prononcer là.
Et puis, ce Casaubon, en fait, est un étudiant à l'époque, des années 70, à Milan. Et puis, il fait sa thèse sur les Templiers, sur le procès des Templiers en particulier. Il fait sa thèse en philosophie. Et puis, par hasard, en fait, dans un bar qui s'appelle Pilade à Milan, je ne sais pas s'il existe pour vrai, il rencontre un éditeur, une personne qui travaille chez un éditeur. Et puis, cette personne-là, en fait, va l'amener à rencontrer des diaboliques, comme ils les appellent, eux, dans le roman. Donc, des gens qui écrivent des romans qui s'inspirent ou qui parlent beaucoup d'hermétisme, la cabale, on en parlait tout à l'heure avec Pic de la Mirandole, tout ça.
Oui,
donc,
oui.
Des gens qui écrivent des livres sur les théories occultes.
Okay.
Et puis là, ils vont finir par en venir à croire en un plan de complot mondial qui prend son origine des Templiers et puis qui va se terminer. L'origine du pendule de Foucault dans le roman, qui va se terminer, que la lecture du plan n'est possible qu'en présence du pendule de Foucault au Musée des arts et métiers de Paris. Et puis le pendule en oscillant devrait montrer là où se trouve l'endroit où on pourrait avoir la source infinie d'énergie qui nous permettrait de dominer le monde.
Si je comprends bien, Umberto Eco s'inspire de faits réels dans son roman.
En fait, c'est ce qui est un peu hallucinant à propos de ce roman-là, c'est que plus on lit... En fait, moi, je conseille toujours de lire le roman avec Wikipédia à proximité.
Ah oui.
Plus on lit, plus on apprend des choses qu'on pense pas vraies. Et plus on se rend compte qu'en s'informant, je dis Wikipédia, mais toute encyclopédie ou source de référence portant sur la matière,
mm-hmm.
nous montre qu'en général, tout ce qui est dit dans le roman, ou presque, est vrai.
Ah
d'une,
oui.
D'une façon historique. Sauf que Umberto Eco, lui, avec son érudition habituelle, réussit à faire des liens entre tout ça pour créer le plan.
Okay.
Et le plan, en quelque sorte, c'est un colonel un peu fou qui leur parle de ça, qui est un message que les Templiers auraient laissé pour la postérité et qui, ferait que certaines personnes devraient se rencontrer à chaque 120 ans pour apprendre un peu plus du plan et qui culmine, justement, en 1948, supposément, avec le pendule de Foucault, mais ils s'aperçoivent que c'est pas arrivé parce que le monde n'est pas dominé par la synarchie. Donc, ils pensent que le plan a avorté. Mais là, eux, tout ce qu'ils font dans le roman, c'est s'amuser avec le plan.
OK.
Mais on s'aperçoit un peu que Umberto Eco, en fait, ce qu'il veut nous montrer, c'est que c'est pas bien de s'amuser avec un plan de la sorte.
Est-ce que ce roman-là a un message pour toi?
Ben, en fait, le message qu'Umberto Eco essaie de montrer avec ce roman-là, en fait, c'est que en fait, je vais commencer par une citation d'Eco.
Alors ça, c'est une bonne idée. Quand on a des citations du roman, ça nous met toujours un petit peu plus dans le...
En fait, je pense que c'est le propos général du roman. Il dit à la page 66 du roman. « Quand deux choses ne vont pas ensemble, croire à toutes les deux, et avec l'idée que quelque part, il en existe une troisième, occulte, qui les unit, c'est ça la crédulité. »
Oh!
Donc, pour lui, en fait... On a souvent dit que le pendule de Foucault, c'est la version érudite des trucs de Dan Brown, là, le code da Vinci, tout ça.
Mm-hmm.
Puis en fait, Umberto Eco en fait, insiste beaucoup sur le fait que, OK, on peut vraiment, en se forçant un peu, trouver de l'occultisme dans tout. À un moment donné, il fait un parallèle entre la cabale et les pièces mécaniques d'une voiture. On peut vraiment aller jusque-là, si on veut. Et puis, j'ai une autre citation d'Echo qui porte aussi là-dessus. C'est qu'on lui a demandé, en fait, qu'est-ce qu'il pensait de Dan Brown.
Oui, ah oui.
J'ai traduit de l'anglais. Umberto Eco a dit « J'ai été obligé de lire le livre Le Code da Vinci parce que tout le monde m'en parlait. Ma réponse est que Dan Brown est un des personnages de mon roman. » Donc, il en vient c'est à dire que ça. Dan Brown et les autres écrivains qui sont inspirés un peu de la même matière.
Il faut dire que pour les gens qui ne connaissent pas Umberto Eco, que ce n'est pas du tout le même niveau littéraire là, entre Dan Brown et
Je ne pense pas que si on a apprécié Dan Brown, on va forcément apprécier Le Pendule Foucault et l'inverse, c'est vrai.
Oui,
aussi.
C'est ça. Il n'y a pas véritablement de rapport entre les deux romans. Autre le fait qu'il y a un grand complot mondial.
Oui, exact. Sauf que c'est ça. En fait, Umberto Eco dit un peu que Dan Brown, c'est un peu un personnage de son roman, parce que lui aussi, on dirait qu'il croit à ses plans qu'il écrit, en fait. Puis peut-être aussi qu'il veut vendre des livres, mais...
Oui, surtout!
c'est un peu ça, c'est un peu la réplique, un peu l'humour aussi d'Umberto Eco, qui transparaît dans le roman aussi souvent, une espèce de tourner au ridicule, mais de façon savante, à peu près tout ce qu'on pourrait penser... ou croire sur les forces occultes qui occupent ce monde.
Mais c'est comme si Umberto Eco s'amusait à nous piéger, à piéger le lecteur en lui faisant une proposition crédible, inspirée des faits réels, en faisant des liens entre ça et en disant aux gens « faites attention, il ne faut pas faire ça ».
Oui, effectivement, parce que en fait, on suit un peu la pensée des héros, si on peut dire héros dans le livre, c'est que eux aussi ils finissent par croire que le plan qu'ils ont établi en blague sur 900 pages de roman, mais ils finissent par y croire eux autres aussi. Puis quand on lit, puis on apprend des choses par rapport aux faits historiques qui sont dans le roman, on finit par presque y croire nous aussi. Mais là, ça va vraiment très loin. Là, on a parlé des Templiers,
oui.
Mais il parle de tout là-dedans. Le Saint Graal, la Synarchie, la Cabale, les Rose-Croix, l'ordre du Temple solaire, le protocole des sages de Sion, la société de Tolé, qui était la société mystique lors des nazis durant la Deuxième Guerre mondiale.
Alors on va faire un peu d'éducation populaire, on va faire ma propre éducation aussi, parce qu'il y a des choses dont tu parles que je ne connais pas. On va commencer par les Templiers. C'est quoi les Templiers?
Bon, les Templiers, en gros, ils prennent leur naissance durant les croisades, donc la formation d'un royaume chrétien au Moyen-Orient, en fait, qui est la libération un peu de Jérusalem et de la Palestine. Et puis, il y a des mystiques un peu, ou en fait des gens qui se proclament d'être moines et chevaliers à la fois, donc qui sont un groupe de neuf, l'idée, c'est un mot anglais.
Mener,
voilà. Le bon mot, c'est mener. Donc, par Hugues de Payne, qui arrive en Terre Sainte, qui se propose pour être les gardiens des pèlerins qui vont venir voir, en fait, tous les lieux sacrés qui se situent en Terre Sainte. Et puis, à partir de ce moment-là, les gens sont bien contents que ça existe, d'ailleurs, comme le roi de Jérusalem, tout ça. Donc, ils vont finir par donner beaucoup d'argent et de propriétés terriennes aux Templiers. Et puis là, à force des croisades et de tout ça qui va augmenter, ils vont finir par devenir extrêmement riches et extrêmement puissants, autant en Occident, où il y a plein de commanderies qui sont créées, donc des espèces de châteaux forts où les Templiers résident.
On est à quelle époque, là, est-ce qu'on l'a dit?
C'est dans les années environ entre 1000... Templiers existent pour vrai environ 150 ans. Donc, ils ont une fonction à peu près 150 ans. Donc,
c'est la fin du Moyen-Âge.
Donc, ouais, 1300,
les croisades, là.
1150 à 1300 à peu près. Donc, le procès des Templiers et le bûcher de Jacques Molay, donc parce qu'ils vont finir...
sur le bûcher.
Pas tous, mais le grand chef va finir sur le bûcher. C'est en 1314.
C'est pas tous les millionnaires qui finissent comme ça.
Non, parce qu'en fait, c'est ça, la cause de la chute des Templiers, c'est que Philippe le Bel, qui est roi de France à l'époque, en 1307, va en fait s'apercevoir qu'il n'y a pas le plein pouvoir de même du trésor français, en fait. Que c'est... Les Templiers ont des lettres de change pour presque l'équivalent du trésor, donc il finit par être un peu tanné de tout ça. Et il va créer une espèce de complot pour montrer que les Templiers sont hérétiques.
Donc,
ils vont faire un procès, puis ce procès-là va se terminer, au bout de 7 ans, là, je vais passer sur les détails, mais il va se terminer sur la chute un peu du Temple français. Et puis le bûcher de Jacques Molay, qui est le grand chef à l'époque.
Donc, si je comprends bien, quand on se réfère à l'histoire, c'est pas les Templiers qui sont les comploteurs, mais bien les victimes d'un complot.
Oui, mais c'est le détail, c'est que les Templiers, à l'époque, en fait, ont pratiquement pas réagi à leur arrestation. Donc, ils ont été, la plupart ont même avoué tout ce qu'on leur disait, tout ce qu'on disait qu'ils avaient fait. Donc, le monde trouve un peu ça louche. Okay. Les historiens et les occultistes.
Et de quoi on les accusait, au juste?
De tout le sodomie, hérétisme, avoir pacté avec l'ennemi, parce que la plupart des Templiers ont probablement entretenu des relations avec les musulmans à l'époque, quand ils étaient en Terre Sainte. Donc, en fait, il y a une panoplie d'accusations. Et puis, la plupart des Templiers qui sont arrêtés pour la première fois, en fait, vont avouer tous les maux de la terre, ou à peu près.
OK. Puis, mais s'ils ont à tout avoué, c'est parce qu'on les avait torturés comme ça se faisait communément à l'époque?
Oui, il y a effectivement eu de la torture.
Oui, l'Inquisition, habituellement, c'était leur méthode d'interrogatoire.
Ils vont essayer de se rétracter par la suite, mais le mal est déjà fait, puis peu importe s'ils vont se rétracter. Donc, Jacques de Molay va se rétracter à la toute fin, mais c'est un crime capital d'être parjuré, donc il va finir sur le bûcher. Et puis là, la légende dit qu'il maudit ses accusateurs. Et puis, ils vont tous mourir dans l'année qui suit. Donc, Philippe le Bel, le pape Clément V, je crois, à l'époque. Ouais. Et ça donnait un peu la légende des rois maudits qui a donné la série de télé, tout ça.
Hey, alors, ici la citation.
Oui, il y a David qui vient de s'asseoir. Oui, allez, vas-y, David.
Maudit, maudit, tous maudits jusqu'à la 13e génération. De vos races, pardon. 13e génération de vos races.
Et ça, c'est une citation...
De Jacques de Molay. On a d'ailleurs le procès verbal du procès de Jacques de Molay aujourd'hui. Oui. C'est très intéressant.
Et puis, c'est ça. Donc là, ça part un peu le bal. Et puis, il y a une des interprétations qu'on a dans le livre du fait qu'ils n'ont pas beaucoup... ils ne sont pas vraiment obstinés avec les accusateurs, c'est qu'il y avait un plan. Et le plan, c'est qu'une charrette de foin serait sortie du temple de Paris quelques jours avant l'arrestation. Et puis, cette charrette-là contenait le plan.
Des Templiers.
Le plan des Templiers. Donc, ils sont laissés faire, ils sont tombés dans les sociétés secrètes pour pouvoir mieux réussir le plan 600 ans plus tard.
Et c'est extraordinaire, ça. Et ça, c'est un fait raconté, inventé par Umberto Eco, ou c'est un fait qui...
Je ne sais pas, en fait, si la charrette de foin est un fait qui est vrai ou pas, mais c'est le début d'une panoplie de faits qui, eux, sont à peu près vrais ou en général, à part quelques détails. À quelques détails près.
Ah oui.
La plupart des faits qui sont racontés après, qui sont, par exemple, comment les Rose-Croix naissent, tout ça, ben c'est tous, en général, assez vrai historiquement.
Bon, alors, on a parlé des Templiers. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les Templiers, David?
Moi, je pense que Dan Brun a retrouvé le trésor des Templiers.
À Reine-le-Château, évidemment.
Oui, évidemment.
on va parler maintenant de Sainte-Croix,
les Rosicruciens.
Les Rosicruciens, merci beaucoup.
Oui, bien ça aussi, en fait, quand David citait Hamlet tout à l'heure, Rosencrantz, c'est sûrement un pastiche de Rosencreutz, Christian Rosencreutz, qui sera un mystique, qui est un humaniste, en fait, parce qu'il connaissait tout. Et puis, il aurait créé un ordre, une chevalerie spirituelle qui s'appelle les Rose-Croix. Mais ça, en fait, on ne sait pas vraiment si le gars a existé, sauf qu'on sait qu'il y a une personne, en fait, je pense que c'est un Allemand, qui avait répandu des pamphlets à l'époque qui disait que les Rose-Croix existaient et qu'ils cherchaient à se mettre en contact avec des gens qui savaient, mais sans dire qui étaient eux.
OK.
Ou à peu près, là, si je me rappelle bien. Puis ces pamphlets-là sont retrouvés aussi en France quelques années plus tard. Et puis ça crée un peu le mythe des Rose-Croix. Donc personne ne les connaît, mais ils existent.
Ces gens-là auraient pris comme la relève des Templiers?
Ben, selon le plan, oui.
Selon le plan?
Selon le plan, c'est une des premières relèves des Templiers, les Rose-Croix.
D'accord. Et donc, eux, ils sont historiquement, donc on est rendu au 15e siècle, à la Renaissance.
120 ans plus tard que le procès, donc, dans 14, les années...
24.
Oui, c'est ça.
OK. Et ils font partie du plan?
Ils font partie du plan. Ils font tous partie du plan.
Qui a été pensé au départ par les Templiers. Et qu'est-ce que le Saint-Graal vient faire là-dedans?
Ben, le Saint-Graal, en fait, selon une explication, le Saint-Graal serait une source d'énergie nucléaire. Mais en fait, c'est une symbolique. Donc, c'est une source d'énergie inépuisable. Donc, le Saint-Graal, on sait que ce serait la coupe qui aurait reçu le sang du Christ lors de la crucifixion.
Oui, ça oui.
Qui aurait été amenée en Écosse par Joseph d'Arimathie, ou en fait en Bretagne, disons. Et puis, en fait, les Templiers, un de leurs premiers voyages dans la quête du plan, c'est d'aller rejoindre d'autres Templiers qui se seraient, eux, évadés vers l'Écosse pour se rapprocher du Saint-Graal, en tout cas. Et puis, le Saint-Graal serait, en fait, un peu symboliquement, ou la pierre philosophale, si on veut, parce qu'on parle beaucoup d'alchimie aussi dans le
roman, ben oui.
Serait la source d'énergie dont les Templiers essaient que les Templiers essaient de s'approprier un peu. Symboliquement, évidemment.
Mais c'est une histoire, il y a une symbolique qu'on retrouve dans plusieurs romans dans l'histoire de la littérature. Là, ça me fait penser à Arthur, les Chevaliers de la Table Ronde. On a le Saint Graal, puis on a un peu toutes ces histoires-là. David, il nous écoute religieusement.
Oui. Je pense même que Dan Brun se demande si le Graal va au lave-vaisselle.
Merci beaucoup, David. Je te demanderai plus de commenter. Oui, c'est bon, tu peux.
C'est ça. Dans, on a parlé aussi des protocoles des sages de Sion. Est-ce que tu sais c'est quoi?
Les comment?
Les protocoles des sages de Sion.
Des sages?
De Sion.
De Sion, S-C-I-O-N.
Oui, donc comme le sionisme.
Oui.
C'est aussi, ça fait partie du roman. C'est okay. Une autre partie du plan. Ils doivent rejoindre les sages de Sion à un moment donné pour accomplir une des étapes du plan. Et les sages de Sion, en fait, on sait que c'est pas vrai, mais Umberto Eco en parle aussi beaucoup dans le roman. Donc, c'est un peu un complot. En fait, je pense que c'est un truc de Machiavel au départ.
Non, en réalité. Ben, je peux-tu...
Oui, vas-y.
Oui, ben oui.
Grosso modo, ça a été écrit par un policier tsariste qui voulait, lui, alimenter des pogroms en Russie début 20e. Et a fait passer ça, lui, sur le dos d'un complot international juif qui visait, en fait, toutes les sphères de la société. Intégration de l'économie, intégration de l'éducation, etc. Et ça visait, c'est ça, à rendre les Russes, et le tsar en particulier, encore plus antisémites pour pouvoir les mettre dehors de Russie. Et ce livre-là a eu une influence hallucinante. On a découvert sur le tard que ça avait été écrit par, en effet, un policier tsariste. Et ça a eu des conséquences hallucinantes. Hein. Hitler a cité souvent ce livre-là pour parler du complot international, du complot juif, nanana. Tous les auteurs antisémites l'ont repris à leur... l'ont cité, puis etc., alors qu'on sait aujourd'hui que c'est un faux et qu'on l'a utilisé. Ad nauseam.
Donc, si je comprends bien dans l'histoire, les sages de Sion étaient accusés d'être des comploteurs.
En fait, les sages de Sion étaient le nom fictif d'un groupe d'érudits juifs. Mais je ne sais pas si les sages de Sion ont réellement existé. Seulement, dans ce titre-là, les protocoles des sages de Sion, ça, c'est un faux.
Okay. Ouais.
En fait, c'est la copie d'un livre que je pense qu'il a été écrit pas par Machiavel, mais par un autre Montesquieu.
Je serais vraiment étonné. Mais
je sais que c'est un livre qui est une copie intégrale d'un autre livre où on l'a remplacé, je ne me rappelle plus, je pense, les républicains français par le mot juif.
Okay.
Ou à peu près, c'est vraiment une copie.
On a remplacé le mot républicain français par juif.
C'est une copie presque intégrale d'un livre qui existait déjà, mais où on l'a mis à la saveur juive.
OK.
Ou anti-juive, là. C'est évidemment plus ça.
Mais... C'est plus anti-juif. Donc, toute l'histoire des Templiers, a débouché sur l'antisémitisme?
Bien, sur les sages de Sion, qui serait
un des maillons du plan.
Ouais, qui est la synarchie juive, donc le grand contrôle secret des...
C'est un autre mot dont je voulais que tu m'expliques, la synarchie.
Oui, la synarchie, c'est un peu le fait qu'on... C'est un peu c'est le complot mondial, en gros. C'est un peu un synonyme du fait qu'il y aurait un groupe secret qu'on ne connaît pas qui manipulerait les politiciens.
Il y a un groupe secret qui manipulerait les politiciens. Mais
les politiciens mondiaux.
On est dans la réalité.
Oui, mais okay, mais comme peut-être, mais les reptiliens, par exemple, ça pourrait être un exemple de synarchie aussi. Donc, un peuple reptilien, des extraterrestres qui sont apparus sur Terre et puis qui contrôlent les ficelles de la politique mondiale. Donc, la synarchie, c'est un peu ça, en gros. Et puis...
Oui, David, David a trouvé quelque chose.
En fait, c'est ça, je l'ai trouvé. C'était plutôt un dénommé Maurice Joly qui avait fait un pamphlet politique. Maurice Joly, républicain extrémiste, qui aurait écrit contre Napoléon III un pamphlet.
OK, c'est ça.
Mais où il n'était absolument pas question d'antisémitisme. Voilà.
Donc, c'est pas pourquoi j'avais Montesquieu en tête, mais c'est Maurice Joly, effectivement. Ouais.
Le temps court, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit qu'il faut absolument dire sur le roman? Le pendule de Foucault de Umberto Eco.
Ah oui, OK, je vais finir par ce truc-là. Donc, en fait, le plan vient d'une liste qui est donnée, qui est celle du colonel qui a trouvé, donc qui a écrit un livre que les trois collègues s'intéressent beaucoup. Et c'est une liste un peu incomplète où il a essayé de traduire rapidement, puis on voit pas vraiment tout. Mais finalement, Casaubon donne la liste à sa blonde de l'époque.
OK.
Pour qu'elle regarde, parce qu'elle entend juste parler du plan sans arrêt. Elle regarde la liste et deux jours plus tard, elle revient avec une explication pour la liste. Ce serait une liste d'épiceries écrite par des gens qui voulaient faire une commande pour aller se ravitailler à l'épicerie, bon, pas à l'épicerie, mais au marché plus près à l'époque.
J'aime beaucoup cette explication-là, moi. En terminant, il a été écrit en quelle année, le roman?
1988.
88, puis traduit en 90 en français, je pense.
Je pense que oui.
Chez Grasset. T'as-tu une dernière chose à rajouter?
Deux citations tirées, une du Pendule et l'autre du Nom de la Rose, donc par Umberto Eco. Celle du Pendule, il y a quatre types idéales. Le crétin, l'imbécile, le stupide et le fou. Le normal, c'est le mélange équilibré des quatre.
Ah, que c'est bien!
Et une petite du Nom de la Rose, pour toi, mon scientifique préféré. La science ne consiste pas seulement à savoir ce qu'on peut ou ce qu'on doit faire, mais aussi à savoir ce qu'on pourrait faire, quand bien même on ne doit pas le faire. Voilà.
Merci David, merci beaucoup Simon.
Ça fait plaisir.
Alors, on va passer maintenant de l'univers des alchimistes et des comploteurs pour parler d'un autre monde encore plus fantastique, celui du jeu de Donjons et Dragons. Donc, un monde qui s'inspire d'une iconographie moyenâgeuse encore une fois. On va donc écouter un extrait de la pièce culte des films de Chevalier, Carmina Burana, l'extrait O Fortuna.
She's out to get her. She's out.
C'était donc l'extrait « O Fortuna » de la pièce « Carmina Burana ». Vous êtes sur les ondes de CKIA et de Radio Fiat Lux et nous sommes de retour en compagnie de Martin. Bonsoir Martin.
Bonsoir Catherine.
Martin, donc, le jeu Donjons et Dragons fête ses 40 ans cette année.
Oui, tout à fait, en 2014, parce qu'il a été pour la première fois, il a paru pour la première fois en 1974. Donc, ça fait 40 ans déjà.
Et quelles sont les influences? Qu'est-ce qui a amené les créateurs à penser à un jeu de cette forme-là?
D'où ça vient? Bon, ben écoute, ça a été, comme je te disais, paru pour la première fois en 1974 pour, si tu veux, comme étant un produit là, qu'on pouvait acheter. C'est l'œuvre de deux personnes en particulier, Gary Gygax, qui est le considéré comme le père, si tu veux, des jeux de rôle, et un autre gars qui s'appelait Dave Arneson. Ces gens-là jouaient à l'époque à des jeux de simulation qu'on appelle des wargames. Mm-hmm. C'est des jeux de figurines sur table où tu déplaces, dépendamment d'un certain terrain, tu vas déplacer des armées ou des différentes grandeurs d'armées. Là. Ça peut être des armées au complet, ça peut être ce qu'on appelle des squadrons. Là,
et c'est un jeu qui existe. Et ça existe depuis très longtemps.
Ça existe depuis beaucoup plus longtemps.
Je
ne
veux pas te faire la genèse de la genèse, là, mais il reste que. Il me semble qu'on a vu ça, des gens accumuler des petites figurines avec des
armes. Il y a toutes sortes de façons de faire des simulations de guerre. Les généraux, les vraies armées, si tu veux, en fond, que ce soit sur le terrain ou encore sur table, comme ça, avec des figurines. C'est apparu quand même pour le grand public, là, si tu veux, au début du 20e siècle. Ah. On parle de Jane, qui est une espèce de revue de militaires qui font toutes sortes d'inventaires, si tu veux, les avions, les bateaux, ça sort à chaque année. Eux, ils ont créé des règlements pour le combat maritime. Alors, c'est devenu déjà une espèce de petit jeu. Et il y a H.G. Wells, qui lui-même y était allé en 1913, d'une espèce de livre de règlement qui s'appelait Little Wars.
Le fameux auteur de science-fiction.
De science-fiction, exact. Alors, ça, c'est de la simulation. Si tu veux, on joue, comme je te dis, des armées ou des pelotons, si tu veux, des compagnies, différents groupes.
Là, les gens peuvent collectionner des figurines.
Oui, aussi. Ce qu'on appelle des miniatures en anglais.
Aussi,
exact. Oui, ça prend plus. C'est un hobby, en fait, Donjons et Dragons. C'est plus qu'un jeu. Là, ça englobe différentes activités. La différence où l'a eu Gary Gygax a eu son trait de génie, si tu veux, c'est de dire, au lieu de faire que les gens vont jouer des armées, on va leur faire jouer un personnage. Et c'est là que Donjons et Dragons est né. C'est qu'au lieu de jouer des armées au complet et de faire des simulations, le joueur allait incarner un personnage comme tel dans un cadre fantastique au départ. Donjons et Dragons, ça le dit. Alors, c'est médiéval fantastique, c'est-à-dire des armures, de la magie, etc. Un peu le monde qu'on peut retrouver dans Le Seigneur des Anneaux, si tu veux.
C'est intéressant qu'ils aient pensé ça. Donc, ils ont dû penser à ça au début des années 70 pour que ça sorte en 74.
Déjà, les wargames, dans les années 60 et 70, si tu veux, ont été influencés par la littérature de l'époque, la fantasy, la science-fiction. Alors, les gens jouaient, si tu veux, avec des petites figurines qui représentaient des colonnes d'orques ou d'elfes ou de trucs de science-fiction aussi, là, évidemment. Là. Okay. Mais sans jouer nécessairement un personnage comme tel. Ils jouaient plutôt des simulations de combats à grande échelle.
Mais ça existait déjà, ces personnages-là.
Ça existait. Et Gygax jouait à un truc comme ça qui s'appelait Chainmail à l'époque.
Inspiré de la fantasy, personnages de fantasy.
C'est ça. Ça, c'était dans un cadre fantastique, effectivement. Et lui a pris ça et a écrit des règlements pour des personnages plus... que chaque joueur joue son propre personnage.
D'accord.
Au lieu de personnaliser la chose.
OK.
Alors, c'est ça. Le jeu est sorti en 1974 dans une petite boîte toute bien ordinaire avec quelques fascicules dedans et des dés, parce que les dés font partie intégrante du jeu. Et le jeu a évolué en 1978. Ils ont sorti une version avancée et qui, là, comprenait des livres de règlement et tout et tout. Et pour tout ça, pour finir, qu'en 81, on avait déjà 3 millions de joueurs en Amérique du Nord. Alors, c'est beaucoup de monde quand même. Et c'était le jeu là, de nerd, de geek ou de tout ce que tu voudras à l'époque, pendant que les geeks n'étaient pas encore chics.
Oui, maintenant, c'est très à la mode d'être geek. J'allais te demander comment ça a été reçu, parce que c'était extrêmement novateur comme idée de jeu. Il n'y a rien qui ressemble à ça. Là.
Non, parce qu'à l'époque, on n'avait rien qui ressemblait à ça. Un jeu de table, tu jouais à Monopoly. Bon, tu pouvais jouer à Risk. Tu pouvais jouer à des choses comme ça. Mais un jeu où tu incarnais un personnage, un jeu de rôle comme tel, c'est vraiment le premier. Maintenant, il en existe une panoplie.
Oui.
Et évidemment, ça l'a fait le saut aussi vers l'électronique. C'est-à-dire oui. qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui sont plus ou moins basés sur ça. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard.
Oui, le fait d'incarner un personnage. Mais au moment où c'est sorti, donc on est à peu près en 78-80, on dit qu'en 80...
Moi, j'ai commencé à jouer en 80.
Oui, toi, tu es un joueur.
Oui.
Toi,
oui,
tu es un joueur depuis très longtemps.
Oui, bien, disons que je n'ai pas joué tout ce temps-là. On a eu des pauses, là. Mais présentement, je joue encore les mercredis soirs avec ma vieille gang de croutons.
Donc,
on pourrait jouer au bridge ou au quai, on joue à ça. T'sais.
Voilà, c'est
on
ça.
On se rencontre une fois par semaine pour jouer
mais
à ça.
J'aimerais qu'on revienne sur la manière dont ça a été reçu, ce jeu-là. Donc, en 81, ça a causé de la controverse. Il y a des gens
qui ont peur. Aussitôt que quelque chose est populaire, on parle en 81 de 3 millions de personnes. Alors, évidemment, c'est qui ces personnes-là? C'est essentiellement des ados, des jeunes adultes.
Et des
alors,
geeks.
Sur 3 millions de personnes, mais il y en a une couple qui vont se suicider, il y en a une couple qui vont tuer du monde. Hein? Tu peux pas faire autrement. Alors, automatiquement, tu as des groupes religieux de droite, d'extrême droite, enfin, qui accusent. Parce que, évidemment, Donjons et Dragons, ça fait appel à toute une mythologie. Ça fait appel à des divinités, des démons, des diables, tout ce que tu voudras y passe. Et dans le livre des monstres, il y a des madames au sein nu. Alors, oui. C'est épouvantable.
C'est un jeu guerrier aussi.
Et c'est guerrier, ça incite à la violence.
Il y a des batailles, là.
Écoute, et si en plus, le pauvre ado écoutait du heavy metal, alors il était damné.
C'était aussi l'époque du heavy metal.
Ça se passe en même temps, ça. Oui, effectivement. Là. Puis, et les groupes qui condamnaient Donjons et Dragons sont les mêmes, essentiellement, qui condamnaient aussi le rock, là.
Ouais.
Le heavy metal.
C'est la peur de la nouveauté.
Oui, mais il y avait quand même aussi, tu sais, pour eux, ils ne connaissaient pas c'est quoi. Ils voient un livre, ils ouvrent un livre, alors tu as une image de Lucifer dedans. Ils ne l'appelaient pas Lucifer, mais c'est un bonhomme avec des cornes puis des ailes, puis tout le kit. C'est un monstre. Alors, ton but, c'est de détruire ça, c'est pas de t'allier avec, mais bon, évidemment, on ne fait pas la part des choses.
Oui.
Le jeune se suicide, on trouve des cassettes d'Ozzy Osbourne et des livres de donjons.
C'est un fait que toutes les images qui viennent avec ce jeu-là pour des adultes qui ne connaissent pas l'univers de la fantasy ou de science-fiction, ça pouvait être un peu choquant pour le temps.
Et dans les éditions ultérieures, ils se sont rajustés.
Ah oui.
TSR, la compagnie en question, a enlevé certaines images, certains trucs qui faisaient référence à certaines affaires. Aujourd'hui, maintenant, bon, c'est redevenu, si tu veux, plus ouvert, là, plus. Mais à une certaine époque, là, ils ont dû réagir face à ça. Par contre, le jeu a gagné toutes sortes de prix, d'accolades, de tout ce que tu voudras en termes de... Parce qu'il a créé carrément un nouveau type de jeu.
Oui. Maintenant, pour en revenir justement au jeu comme tel, pour les gens qui, par hasard, ne sauraient pas comment ça fonctionne, quelle est la mécanique et les principes fondamentaux du jeu?
Bien, d'abord, ça se joue autour d'une table en général. Quoique, on peut jouer ça dehors avec des costumes aussi. Là, c'est une autre façon d'approcher tout ça, si tu veux, en grandeur nature.
Oui.
Mais au départ, le jeu se jouait autour d'une table avec des joueurs et un maître de jeu. Alors, les joueurs, ça peut être un nombre... C'est sûr qu'être en bas de deux joueurs, là, c'est pas vraiment pratique, mais en général, c'est 4 ou 5 joueurs avec un maître de jeu. Les joueurs, si tu veux, seraient un peu comme les acteurs. Et le maître de jeu est un peu le metteur en scène,
c'est okay? ça.
Il peut ou non être scénariste, c'est-à-dire qu'il peut créer l'histoire ou acheter une histoire toute faite qu'on appelle un module à ce moment-là. Et c'est le décorateur, c'est lui qui fait tout. Il te décrit tout, il te met en situation et les joueurs réagissent face à cette situation-là. Bon, il y a des aides, évidemment, ça prend des dés pour décider de certains événements, parce qu'il y a une partie de hasard dans ça. Ça nous prend des petits bonhommes pour savoir où on est par rapport à l'autre. Alors, les petites figurines qui servaient, si tu veux, dans le temps des wargames, ben, il y en a comme hobby, ils vont peinturer leurs petits bonhommes, etc., etc.
Ce qui est particulier dans le jeu, justement, c'est que le personnage peut décider... Le joueur peut décider de ce que son personnage va faire sans aucune limite, en fait.
Bien, c'est que la première chose que tu fais quand tu commences à jouer, c'est de te créer un personnage. Alors là, il y a des règles pour créer le personnage.
Oui, il y a des caractéristiques au personnage.
Ce personnage-là va avoir des caractéristiques. Ça va être, mettons, un magicien, un voleur, un combattant, etc., etc. Il peut être d'une race, il peut être humain, elfe, nain, bon. Bref. tu décides de certaines choses au départ, et ce personnage-là va avoir des attributs tels que la force, l'intelligence, la constitution, etc., etc. Une fois que tu as tout ce package-là, que ton personnage est décrit, si tu veux, c'est toi qui le fais vivre. Alors, tu incarnes le personnage et tu décides de ce qui se fait. Alors, le maître de jeu va dire, il y a une porte à gauche, il y a une porte à droite, laquelle tu prends, j'écoute à la porte, tu décides de ce que tu fais. Et tu peux essayer n'importe quoi à toute fin pratique.
Oui.
C'est là que les règles interviennent, à savoir c'est quoi ta chance de réaliser, de réussir ce n'importe quoi-là que tu veux bien essayer. Là. Mais essentiellement, tu as une liberté totale.
Oui.
Tu pourrais décider de ce que tu fais. Tu peux taper sur ton ami, tu peux partir, aller prendre une bière en quelque part, revenir.
On peut dire que ça laisse beaucoup de créativité.
Oui, tout
ça laisse place à beaucoup de créativité. Une autre particularité du jeu aussi, c'est qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de vainqueur.
Ah, tout à fait. Écoute, la première grande particularité, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de gagnant au jeu. Il n'y a pas de but comme tel au jeu. Tu sais, au Monopoly, tu joues, c'est d'éliminer les autres, si tu veux. Les joueurs sont tes adversaires. Là, les joueurs ne sont pas tes adversaires, c'est un jeu coopératif.
Oui.
Tu pourrais dire à la limite que le maître de jeu est l'adversaire des joueurs, mais dans le fond, tout le monde est là pour avoir du plaisir.
Oui.
Tu sais, tout le monde est là pour s'amuser, c'est le but premier du jeu. C'est d'avoir du plaisir et d'essayer que son personnage, bien évidemment, demeure en vie, parce que s'il meurt, soit que tu t'en fais un autre, ou rendu à un certain point dans le jeu, ton personnage peut ressusciter comme tel. C'est donc d'abord et avant tout un jeu de coopération. Tu apprends à coopérer parce que les personnages sont tous différents. Et dans cette diversité-là, un groupe diversifié, si tu veux, est beaucoup plus puissant qu'un groupe qui aurait tout le même genre de personnages. Mmh. Fait que ça apporte, si tu veux, cette variété-là. Là. Combattre, c'est pas toujours la meilleure solution. On peut parler avec les monstres,
c'est
avec
ça.
Ses ennemis.
Négocier.
On peut négocier, exactement. Et évidemment, pour les plus jeunes qui s'initient au jeu, il y a tout un aspect d'initiation, si tu veux, aux probabilités, à l'arithmétique simple, là, des plus, des moins, des multiplications, ces choses-là. Et aux probabilités, parce que continuellement, on sert de dés pour atteindre différents objectifs.
On en a parlé un petit peu aussi tout à l'heure, ouvrir sur les suites de ce jeu-là, les influences que ce jeu-là a eues, par exemple, sur le jeu vidéo ou sur les grandeurs nature. À quoi ça a donné lieu, ce jeu-là, ensuite?
Bien, c'est que quand le jeu a été créé, et comme je te disais tout à l'heure, il n'y avait rien du tout. Alors,
oui.
ça partait de zéro. Ça nous a donné différents systèmes, si tu veux, pour faire fonctionner ce type de jeu-là. Et ça a débordé du cadre du jeu. Parce que aujourd'hui, quand tu joues n'importe quel jeu d'action sur ordinateur ou sur console, aussitôt que tu as des points de vie, que ton bonhomme a des points de vie, mais ça vient de Donjons & Dragons. S'il y a de la mana, c'est une puissance magique. En quelque sorte, ça vient un peu de Donjons & Dragons. Quand ton personnage s'améliore parce qu'à force de tuer des bébites, il vient de plus en plus puissant, il gagne des niveaux qu'on appelle.
Oui.
Alors, ça aussi, c'est un concept qui a été amené par Donjons & Dragons. Même si c'est un jeu purement de combat, si tu veux, quand tu as un jeu vidéo. Ça peut être aussi un jeu de rôle. Il y a des jeux vidéo qui sont des jeux de rôle où tu incarnes carrément un personnage à la Donjons & Dragons, puis tu joues en ligne contre d'autres et avec d'autres qui incarnent aussi un personnage. Mais même dans le jeu juste Doom, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de la mécanique de Doom et s'inspire de Donjons & Dragons.
On peut dire que vraiment, ça a eu un impact majeur sur les jeux vidéo, sur l'univers des jeux vidéo.
Oui, puis ça donne lieu aussi à tout un langage. Tous les gens qui ont joué le moindrement au jeu ont un langage propre qui peut s'appliquer en dehors du jeu. Un exemple, tous les personnages et les monstres ont un alignement moral, si tu veux.
Oui.
Alors, c'est deux axes qui vont de bon vers mauvais. Puis de l'autre bord, tu as l'autre axe, si tu veux, qui va de chaos vers loi.
Oui.
Alors, où tu te situes par rapport à ça? Alors, Adolf Hitler serait ce qu'on appelle un lawful evil. Le capitaine Kirk serait un chaotic good.
Chaotic good.
Oui, contrairement à Spock. Spock, lui, il est lawful.
Et on pourrait dire, on est un spécialiste.
On pourrait dire que le médecin dans Star Trek, lui, est neutre bon. C'est tout un langage que... les gens qui jouent vont... Ah, ça, c'est un lawful evil.
Sans aller jusqu'à dire qu'il y a un apprentissage moral, il y a peut-être un apprentissage de la psychologie humaine à travers ça. Parce que la morale,
je ne sais pas ce que je veux dire en apprentissage. C'est plus qu'un, comme je te disais, c'est plus un langage que les gens vont adopter. Oui. Tu manques ton coup, tu as roulé un naturel. Tu n'as pas réussi à attacher ta botte, mais tu peux dire que c'est à cause d'un dé. Tu as tout un aspect rigolo comme ça aussi qui s'installe.
Le temps court, il va falloir conclure. T'avais, des...
Ben, j'ai trouvé des citations, étonnamment, de Donjons Dragons.
Arrêtez-le.
Oui. Alors d'abord, un proverbe orc.
Oh, un proverbe orc.
Hache qui tranche n'amasse pas rouille. Ça, c'était mon proverbe orc. Et quand tu parlais tantôt de langage spécialisé, en voulant une, un proverbe plutôt de la guilde des voleurs. Bien mal acquis, profite l'XP. L'XP, c'est l'expérience qu'on gagne, par exemple, à débarrer des portes, à voler dans les poches de quelqu'un, etc. Et j'en aurai une dernière qui est issue de Tom et ses chums, excellent vidéo que tu connais probablement.
Oui, tout à fait.
Hey, t'as tué mon bonhomme! Voilà.
Bravo! Merci, David. Ça vaut une main d'applaudissement.
Absolument. La bataille de Faramir, je crois. C'est ça. Ah, c'est merveilleux.
Eh bien, merci beaucoup, Martin, pour cette présentation-là. Je ne sais pas plaisir. Si on a réussi à faire le tour. On a dit le principal.
Oui, 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 quand même. On a fait le tour un petit peu mal.
Bon, je voulais faire des petites annonces pour les prochains spectacles à la librairie, mais je pense que je n'ai pas tout à fait le temps. Oui? Ah, on me dit que j'ai le temps. Alors, écoutez, je vais vous annoncer quelques spectacles qui vont avoir lieu dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc, le 8 février, samedi prochain, il va y avoir Harley Young. C'est du folk australien. Je vous rappelle le spectacle de Laurence Petitpas, une accordéoniste avec son groupe de musique portugaise. Brésilienne, voilà, lundi le 10 à 19h, le 21 février, un vendredi à 19h, il y a l'habituelle soirée de poésie pour les adeptes, c'est vraiment toujours excellent. Et le 22, samedi, on a le lancement d'un livre de poésie de Coroner Paradis qui s'appelle « Le soleil des taupes ». Et je termine en vous disant que ça va être le grand retour de l'Université du savoir populaire du Québec qui va être de retour à la librairie Saint-Jean-Baptiste très prochainement, dès février. On n'a pas encore les dates exactement et les thématiques, mais appelez à la librairie, informez-vous, on va vous tenir au courant. Alors voilà. Je vous remercie beaucoup. Je remercie David qui nous accueille à la librairie tous les premiers lundis du mois. Je remercie Gab Paquette qui est le compositeur du thème de l'émission. Merci à mes invités de cette semaine, Adrien Dugas, Simon Richard, Martin Léveillé et en invité surprise, Laurence Petitpas. Et enfin, merci à mon équipe, l'efficace et discret Anaël à la mise en onde et l'indispensable Grand Manitou, producteur de l'émission et concepteur du site web Big Nick. Vous êtes sur Radio Fiat Lux. C'était La Voix de la librairie, Québec.
Tes mains sur tes oreilles quand t'entends rire les narvalos sauvagement. Ceux qui portent leurs membres à bout de bras et qui disent qu'un cul ça s'attrape ou ça n'est pas. De quoi t'as peur? Alors dis-leur que ton machin est contrarié. Que parfois quand une fille te parle tu sens tes billes se rétracter. Depuis que cartonne au box-office la grande idée selon laquelle la compassion s'est dépassée. Dis-leur que tu te sens seul et que tu sais plus quoi faire pour trouver un peu de chaleur humaine. À aller au bois pour que quelqu'un accepte enfin de toucher ton zob. Tripoter la lycéenne, porter des robes, te trémousser en talons hauts comme un gogo, puis arpenter les ruelles sombres en secouant ta clochette. C'est un peu à cause de tout ça si tous les soirs c'est la même histoire. Métro, apéro, l'exo, clope et films porno à l'ancienne, sur lesquels tu t'entraînes rageusement, même si ça fait longtemps que ça t'amuse plus vraiment. Mais il faut pas que tu désespères, perds pas espoir. Promis juré qu'on la vivra, notre putain de belle histoire. Ce sera plus des mensonges, quelque chose de grand, qui sauve la vie, qui trompe la mort, qui déglingue enfin le blizzard. Imagine-toi, t'es là, en train de te reprendre un verre au bar, quand tout à coup tu croises un regard qui te perfore de part en part. Imagine-toi, t'es là, ça te tombe dessus sans crier gare. Un truc pendant, un truc dément qui redonne la foi, un truc comme ça.
Bonsoir.
Bonsoir.
Quelle chance de se croiser ici. Bonsoir.
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 Je voudrais partager tes nuits.
Tu connaîtras les nuits fauves, je te le promets. Elle sera tigre en embuscade quand tu viens de glisser sous ses draps, tandis que toi tu feras scintiller tes canines lorsqu'elle enlève le bas. Elle t'offrira des feulements dans sa voix lorsqu'elle reprend son souffle, qui s'échappe dans la cour pour aller faire gauler la lune. Des coups de bélier invoqués comme un miracle, qui veulent dire si tu t'arrêtes je meurs. Toutes ces choses qui te la feront raidir, rien qu'à te souvenir pour le million d'années à venir. Malheureusement, tout ce qu'on t'offre pour l'instant, c'est des chattes épilées et des seins en plastique en vidéo. C'est terrifiant. Tout le monde veut la même chose, même les travelots rêvent du prince charmant. Et pourtant, on passe notre temps à se mettre des coups de cutter dans les paumes. À trop mentir, à force de dire, par pitié, range la guimauve, écarte les jambes, je t'en supplie, me parle pas. Laisse-moi seulement kiffer mon va-et-vient de tolard et m'endormir direct moins de 3 minutes plus tard. À force de faire tout ça, on croyait quoi? On se meurtrit, on fait l'amour, comme on s'essuie. Quel gaspillage. Mais il faut pas que tu désespères, perds pas espoir. Promis juré qu'on la vivra, notre putain de belle histoire. Ce sera plus des mensonges, quelque chose de grand. Qui sauve la vie, qui trompe la mort, qui déglingue enfin le blizzard. Imagine-toi, t'es là, en train de te reprendre un verre au bar. Quand tout à coup tu croises un regard qui te perfore de part en part. Imagine-toi, t'es là, ça te tombe dessus sans crier gare. Un truc pendant, un truc dément qui redonne la foi. Offre-moi dès ce soir ta peau brunée, tes lèvres mauves, tes seins terrains, tes cheveux noirs, et qu'on se noie.